Radio Campus, il est 6h.
Prendre le petit déjeuner en communauté et pour 0€, c'est l'initiative de la branche lilloise de l'association Entourage qui lutte contre l'isolement et la précarité sociale. Tous les mardis matins de 8h30 à 10h30, l'association ouvre ses portes à tous ceux qui souhaitent partager un petit déjeuner. Lauriane et Juliette, représentantes et bénévoles d'Entourage à Lille, discutent avec nous de l'événement hebdomadaire.
Donc du coup, les petits déjeuners solidaires, ils existent depuis 2021. Ils ont été créés par le comité de la rue. En gros, nous, dans notre association, on a un comité de la rue. C'est des gens qui ont vécu la rue ou qui vivent encore la rue. Et du coup, ils ont eu cette idée de faire le petit-déj parce que justement, le mardi matin, la Bèche s'est fermée. Et la Bèche, c'est un centre, enfin un accueil de jour où les gens vont souvent passer la journée ou pour se restaurer, boire du café. Et comme c'est fermé le mardi matin, bah, y a pas vraiment de service approprié pour faire ça. Donc du coup, ils ont eu l'idée de faire ce petit-déj de 8h30 à 10h30, où en gros, les gens qui n'ont pas un service peuvent le trouver chez Entourage.
L'idée, c'est vraiment que les gens viennent, ils apportent rien. Nous, on ramène du pain, y a des l'événement tourne exclusivement avec des bénévoles qui du coup s'occupent d'aller chercher du pain, du café, toutes ces petites denrées alimentaires. Donc on a largement de quoi se régaler et du coup les gens ont juste à venir, à se poser. Et l'idée c'est que ce soit le plus mixte socialement, on va dire. Donc on peut croiser autant des gens, comme disait Juliette, qui d'habitude fréquentent des accueils de jour, qui viennent pour chercher un service, que des gens qui ont envie de discuter, de passer un moment. Et il y en a pour qui ça devient vraiment une habitude de venir, et c'est vraiment le rendez-vous hebdomadaire du mardi matin où on vient voir ses potes, quoi, en gros, et au fur et à mesure, c'est ça, on vient pour profiter du moment, quoi. Et c'est aussi un truc super important du comité de la rue chez Entourage, c'est vraiment un organe de décision comme le conseil d'administration ou le conseil de direction. C'est vraiment genre la boussole éthique d'Entourage pour s'assurer que ce qu'on fait, ça a du sens. Et c'est vraiment à l'initiative de ces personnes-là que ça a été créé, le petit-déj.
À qui est accessible le petit-déjeuner ?
Tout le monde peut venir, c'est accessible autant aux personnes qui en ont besoin, les personnes en précarité, les riverains, les voisins, les gens en entreprise, tout le monde. Tout le monde peut venir, c'est absolument ouvert à tout le monde.
On voit des gens vachement variés quand même au petit-déj. Et après, c'est entre guillemets, du coup, à Entourage, on propose aussi d'autres événements. On fait des ateliers cuisine, des trucs plus culturels, des soirées jeux de société ou quoi. Ça dépend un peu de la programmation du moment. Mais le petit déjeuner, c'est vraiment l'événement vitrine, dans le sens où c'est le plus accessible pour tous. Et c'est là où on voit le plus de variété, même si on a quand même beaucoup de gens en précarité ou en grande précarité qui viennent au petit déj, parce que, comme on l'a dit, ça remplit cet espace vide de il y a pas d'accueil de jour ouvert à ce moment-là, et où du coup les gens, c'est un prétexte entre guillemets, le fait que on distribue de la nourriture, du café. Donc quand on fait des maraudes ou quoi, qu'on va aux accueils de jour, on vend un petit peu cet événement de vous pourrez prendre un café, du pain, etc. Forcément, la nourriture pour les gens en grande précarité, ça reste quand même une première raison de venir, mais du coup on transforme cette raison en prétexte de créer du lien et de la discussion. Et ce qui fait que, au final, on retrouve des étudiants, des salariés d'entreprise. Enfin, souvent, on a des entreprises qui viennent dans le cadre de leur travail en mode OK, on y va entre salariés et on va faire du lien avec les gens.
Pour accéder à ce petit déjeuner, est-ce qu'il faut payer 1€ symbolique ou quelque chose ?
Non, rien du tout aussi. C'est vraiment ouvert. Enfin, les portes, elles sont ouvertes. Les gens, ils rentrent, ils partent à l'heure qu'ils veulent. Enfin, à l'heure qu'ils veulent, il y a des horaires, mais enfin, tout le monde est le bienvenu. Il n'y a pas besoin de payer quoi que ce soit. Après, il y a des gens, des fois, qui ont l'initiative de ramener... Il y a un bénévole qui a ramené souvent des fruits, par exemple, le matin, mais c'est pas du tout obligatoire. Les gens, ils peuvent venir juste avec eux-mêmes.
Et l'idée du petit-déj, c'est que les gens, ils peuvent venir 5 minutes. Il y en a très bien qui vont juste venir pour boire leur café et qui n'ont pas envie de parler aux gens. Et c'est OK, ils vont continuer leur vie. Et après, on voit qu'il y a des gens qui, petit à petit, ils viennent, ils passent de plus en plus de temps, etc., mais... Chaque fois, c'est complètement gratuit et il n'y a rien à ramener.
Est-ce que c'est, on va dire que c'est accessible à tous les régimes alimentaires ?
De toute façon, il n'y a pas de viande. Enfin, ou des fois, il y a un de nos bénévoles ambassadeurs qui a des sandwichs Laurent à distribuer, mais ça, du coup, ça dépend de ce qu'il a récupéré. Mais en fait, il n'y a pas de salé au petit déjeuner. Donc, c'est à part les gens qui sont intolérants au gluten.
C'est vraiment en mode... self-service. Mmh. Les gens prennent leur café, leur thé. Ouais. Des fois, on passe un petit peu pour leur proposer, parce qu'il y en a qui sont un peu timides, on va dire, qui vont pas oser. Mais du coup, c'est vraiment les gens prennent ce qu'ils veulent.
Nous sommes toujours en train de parler de l'association Entourage, une association dont la branche lilloise organise des petits déjeuners solidaires tous les mardis matins afin de lutter contre l'isolement social et la précarité alimentaire. Des petits déjeuners pour se restaurer et créer du lien, mais également pour bénéficier d'autres services, comme en témoignent Lauriane et Juliette, bénévoles de l'association.
Après aussi au petit-déj, on l'a pas dit, mais il y a des prestations des fois. On avait une coiffeuse qui venait, à un moment on a eu un coiffeur. On a une assistante sociale qui vient toutes les semaines. En gros, il y a des gens qui viennent sur place offrir un service gratuit aussi aux gens qui sont là, s'ils veulent. Donc nous, on est ouverts. Les gens, s'ils veulent venir proposer quelque chose gratuitement ou se faire connaître, ou je sais pas, ils sont totalement les bienvenus aussi.
Mais ouais, le petit-déj, on a un peu envie que ce soit un endroit qui vive, ouais, et que ce soit pas juste justement ce truc de service alimentaire, de on vient manger, mais des fois il y a des trucs qui changent un peu de l'ordinaire, comme disait Juliette, une fois il y a une association qui est venue, il y a des coiffeurs, des gens qui rendent des services, etc. Et on est vachement en recherche de ça, justement, d'associations qui ont envie justement de participer à ça pour créer, on va dire, un plus gros événement et faire un peu une sorte de place des associations où, ouais, chacun peut venir pour proposer quelque chose.
Et du coup, est-ce que vous avez des événements, on va dire, avec Entourage qui vont bientôt se faire, ou dans le cadre du petit déjeuner ou autre ?
En général, déjà, le petit déjeuner, c'est tous les mardis matins. Après, on a ce qu'on appelle les événements réguliers, récurrents. On a les soirées jeux de société, où c'est deux fois par mois. Des ateliers cuisine aussi, où c'est deux fois par mois. Et après, de manière plus ponctuelle aussi, là, bientôt, on va avoir une visite de l'aéronef. Et avec l'été aussi, ce qui est bien, c'est qu'il y a plein de concerts, open air, etc., qui sont organisés. Et du coup, on va essayer de plus se rendre aussi à des concerts qui sont organisés par l'aéronef en plein air, qui s'appelle Un air d'été. Où ça aussi, c'est des événements qui sont vachement propices aux liens, parce que bah, y a le concert en plein air, il y a plein d'activités, etc. Donc il y a ça aussi à venir. Et pour
l'escalade aussi.
L'escalade aussi, qu'on a régulièrement.
Dans la salle où a lieu le petit déjeuner, une légère odeur de café se fait sentir, accompagnée de brioches, pain, confitures et viennoiseries. Nous avons eu l'occasion d'interroger certains adhérents sur leur ressenti vis-à-vis de l'initiative.
Alors, je m'appelle Joriane, je viens à Entourage tous les mardis matin. J'en loupe aucun parce que pour moi c'est extrêmement important. C'est ce qui me sauve dans ma triste vie, parce que j'ai un parcours de vie extrêmement difficile à tout point de vue. Je suis polyhandicapé, bon, j'aime pas dire ça, mais c'est la vérité, mentale et physique. Je n'ai plus aucune famille du tout. Vraiment, je suis complètement dans une solitude à couper au couteau. C'est absolument épouvantable. Et grâce à cette association-là, j'ai la sensation d'avoir un remplacement familial, parce que les bénévoles nous suivent dans nos vies, nous posent des questions sur ce qu'on vit, la fois d'après se souviennent de ce qu'on a dit, etc. Donc il y a un très fort lien qui se crée. Et pour moi, de toute façon, je n'ai pas le choix. C'est ça ou rien du tout, ou aucun lien social. Donc je n'ai pas le choix. Donc je suis bien obligé de venir à Entourage. Mais j'adore, parce que je fais des tas de belles rencontres. En fait, je suis venu ici grâce au bouche à oreille, parce que j'ai commencé par aller au Restaurant du Cœur, et c'est là qu'on m'a parlé de l'association Entourage. Mais au tout début, je ne connaissais aucune association, et c'est vraiment par le plus grand des hasards. J'étais assise sur un parc dans l'île, et quelqu'un m'a parlé, comme ça, dans le plus grand des hasards d'une association. J'y suis allée, et c'est là qu'on m'a dit, il y a aussi l'association Entourage qui propose des petits déjeuners le mardi matin. Et donc, si je n'avais pas rencontré cette personne, eh bien, peut-être que je ne serais pas au courant de cette belle association. Mais le hasard a fait que j'ai été au courant. Parce qu'il faut savoir que personne n'en parle de ces associations. Même les assistantes sociales qui essayent de tout faire pour nous et de nous alléger la vie, ou dans les mairies, ou partout, personne ne nous parle des associations, et notamment de l'association Entourage. Moi, j'ai découvert ça il y a un an et demi, et j'étais au courant de rien du tout, alors que j'étais dans la solitude à couper au couteau depuis une dizaine d'années. Ma condition de vie est telle qu'elle est insupportable. Donc maintenant, c'est beaucoup plus supportable. Chaque jour, en se réveillant le matin, on sait qu'on est attendu, qu'on est espéré, que beaucoup de gens nous aiment bien. Et quand on n'a plus du tout de famille, ça fait du bien.
Mais du coup, vous avez réussi à trouver peut-être des amis, vraiment un entourage fidèle ici?
Ah oui, alors ce que j'apprécie avec l'association Entourage, c'est leur slogan. C'est Entourage, le réseau de ceux qui n'en ont pas. Et alors moi, ça me convient bien parce que le moins qu'on puisse dire, c'est que je suis carrément dans ce slogan. Car pour couronner le tout, pour ajouter aux difficultés de ma vie, il se trouve que je suis complètement babache devant un téléphone portable et devant les techniques modernes. Donc je suis coupé du monde parce que je suis incapable de me servir d'un ordinateur ou d'un téléphone portable, tellement c'est compliqué, je ne suis pas né avec. Et justement, à Entourage, eh ben, on a tout un réseau qui se crée et on n'a pas besoin de connaître ces vilaines techniques modernes. Donc moi, ça m'arrange bien, c'est mon réseau, hein. On fait ce qu'on peut avec les moyens du bord. Et donc, grâce à ça, bah, je fais des très belles rencontres de tout ordre.
Je m'appelle François, ou Chacado, comme on dit, ou Monsieur le Chat.
Ok, et du coup, est-ce que vous pouvez me dire, ça fait combien de temps que vous venez à Entourage?
Ouais, je vais vous dire, je suis dehors depuis juillet l'année dernière, hein. Donc ici, j'ai commencé en octobre-décembre, pendant les périodes d'hiver, et tous les mardis, bah, je viens, voilà. Je viens pour dire bonjour, discuter avec les gens. Bah, j'ai même, pour vous dire les intox, je vais être en bénévolat. Parce que moi, j'ai quelques amis qui viennent travailler ici, et qui fait partie comme bénévole à la Belge. Donc il m'a rencontré, il m'a dit bah, « Pourquoi tu viens pas de temps en temps au petit déjeuner ?» Bah voilà, c'est ce que j'ai fait, je suis venu. Voilà. Et depuis, bah, j'en arrête pas de venir. On vient avec le chat ici, présent, à vos genoux, qui se balade de temps en temps. Alors au début, c'était très dur, parce que j'avais 25 kilos avec moi. J'avais un sac, plusieurs sacs, un caddie rempli. Maintenant, petit à petit, bon, j'ai pu réduire parce que, en fait, je vis dans une tente et on m'a permis de vivre là-bas à la citadelle.
Et du coup, le fait de venir ici, est-ce que ça vous a vraiment permis de rencontrer des gens, développer un entourage?
Bah, la preuve, c'est comme ça que j'ai pu me permettre de rencontrer aussi des personnes qui travaillent à la cloche. Je rencontre les gens, comme d'habitude, je dis bonjour et puis on fraternise.
Vous pouvez retrouver le petit déjeuner solidaire tous les mardis matins de 8h30 à 10h30 au 23 passage rue du Marché à Lille. Vous pouvez également retrouver toutes les informations et projets de Entourage sur leur application Entourage ou sur leur page Instagram entourage-du-bas Hauts-de-France.
Un reportage de Aurore Eni pour Radio Boomerang.
Cette émission est proposée dans le cadre des productions coopératives des radios associatives du nord de la France, une coopération qui a reçu le soutien de la région Hauts-de-France.
Hola, me llamo Ella. Cuando estoy en Lille, escucho Radio Campus en 106.6 y cuando estoy en España, escucho en www.campuslille.com.
Tu n'es pas la femme que j'attendais. Tu n'es pas la femme que j'attendais. Tu es là, juste à côté de moi. Tu n'es pas l'enfant que j'espérais. Tu n'es pas l'enfant que j'espérais. Oh non, pourtant tu es là. Jamais rien. Comme le chantait Edith Piaf, l'amour n'est pas une épitaphe. Tu n'es pas ma région préférée. Préférée.
suis là, dans le brouillard et le froid. Tu n'es pas la maison de mes rêves. Tu n'es pas la maison de mes rêves. Oh non, pourtant sous ton toit, c'est la vie qui va. Comme le disait Jean Gabin, je sais qu'on ne sait jamais rien. Comme le chantait Edith Piaf, l'amour n'est pas une épitaphe.
Thank you. L'Association pour le droit à l'initiative économique, ADI, est une association française reconnue d'utilité publique depuis 2005, dont le but est de permettre à des personnes qui n'ont pas d'accès au système bancaire traditionnel de créer leur propre entreprise grâce au microcrédit accompagné. Rencontre avec Memouna de l'Association pour le droit à l'initiative économique, ADI, des Hauts-de-France.
L'association a été créée par Marianne Oac qui avait l'idée en fait que chacun peut entreprendre en fait même sans capital. Donc pour toutes les personnes qui n'ont pas forcément accès à un crédit bancaire classique, nous en fait au niveau de l'ADI on est le dernier recours. On suit que ce soit les personnes au RSA, fichier Banque de France ou demandeur d'emploi en fait, peu importe la situation de la personne, à partir du moment où elle a une compétence ou un talent, en fait elle peut venir s'adresser à l'ADI et on sera là en fait pour l'accompagner, que ce soit sur du financement ou de l'accompagnement.
Quel est le profil des personnes que vous recevez ?
Alors comme j'ai expliqué, un profil du coup assez, assez fragile. On a des personnes de tout horizon, hein, mais c'est des personnes qui sont assez fragilisées au niveau des finances et dont personne ne veut forcément les suivre. Et en fait, l'ADI est une porte ouverte pour ces personnes-là, en fait, dont personne ne veut aider.
Donc une personne qui vient avec une première idée d'un projet,
oui.
Il peut venir.
Il peut venir. Il peut venir. Ensuite, on travaille en fait avec une équipe intégrée, donc des bénévoles. On est aussi en lien avec du coup les partenaires comme Positive, avec qui on travaille énormément, qui font uniquement de l'accompagnement. Et à partir du moment où en fait la personne elle a une idée, et ben on est là en fait pour structurer son projet, pour soit voir ce qu'il y a à compléter avec les bénévoles ou avec les partenaires, et ensuite faire la partie financement avec elle. Et c'est pas des personnes en fait qu'on lâche dans la nature pendant 3 ans, on les suit sur leur projet. On a pas mal d'ateliers qui sont mis en place aussi par rapport à ça, qui peuvent les aider, comme comment chiffrer son projet, comment trouver des clients, des ateliers sur la confiance en soi. Et en fait, ils peuvent bénéficier de tout ça et gratuitement. Ils ont vraiment, on les suit réellement. En fait, c'est un réel accompagnement.
Et qui anime ces ateliers ?
Alors, nos bénévoles les animent. On travaille avec des bénévoles. Nous, les conseillers, on peut les animer aussi si on n'a pas assez de bénévoles. Et puis voilà. Et ensuite, c'est des relations assez, parfois partenariales où là, on va travailler en fait avec d'autres structures comme les Carrefours, comme Positive, etc., où on pourra se mettre en lien pour pouvoir créer un atelier qui servira du moins pour les porteurs de projets.
Quand vous dites des bénévoles, donc c'est des gens qui sont formés ?
C'est des gens qui sont formés ou c'est des personnes qui ont déjà en fait des compétences dans le métier. Par exemple, là, j'ai un événement au centre social de l'ALMA durant la campagne de l'ADI avec une bénévole qui fait déjà ça en fait à son compte. Elle travaille beaucoup sur tout ce qui est confiance en soi. Elle est coach et donc en fait elle sera là tout simplement pour les personnes qui seront présentes, donc les porteurs de projets, pour animer en fait cet atelier. Mais ce sont des bénévoles souvent retraités qui ont déjà en fait les compétences requises dans le domaine.
Comment est-ce que vous voulez sélectionner vos bénévoles?
Alors ils peuvent postuler directement via le site internet, donc adi.org, ou alors nous, dans certains événements, on peut aller à leur rencontre, comme il y avait la journée du bénévolat à la maison des associations où l'ADI était présent. Et donc à ce moment-là, on informe que nous, on a toujours besoin de bénévoles. Il y a pas mal de bouche à oreille aussi. Et ensuite, c'est des entretiens qui sont faits avec eux. Ils nous voient sur le terrain, ils nous voient sur nos différentes missions également. Et ensuite, ils se positionnent sur ce qui peuvent les convenir, parce qu'en fait, c'est aussi un choix. Hein. Ce sont pas des salariés, ce sont des bénévoles. Il faut que ce soit une mission qui les anime aussi. Et puis, ça reste des passions. Donc, sur le volet, en fait, sur lequel ils se sentent le plus à l'aise, c'est là-dessus, en fait, sur lequel ils vont.
Oui, parce qu'il faut avoir quand même certaines compétences.
Exactement.
Pour accompagner, c'est pas donné à tout le monde.
Tout à fait. Mais le champ, il est tellement large, en fait, pour pouvoir accompagner un porteur de projet, que ça soit, en fait, sur tout ce qui est la comptabilité, que ça soit sur les déclarations, que ça soit sur l'assurance. Ça peut être aussi pour restructurer le projet, pour pouvoir trouver un local, comment on fait, etc. En fait, finalement, c'est tellement large qu'on trouve toujours, en fait, des bénévoles qui ont une certaine compétence pour pouvoir accompagner au mieux.
Parce que comme vous nous parliez du public,
public très fragile que vous accueillez.
Oui.
Il faut aussi avoir un savoir-être.
Exactement, oui.
Ça aussi, c'est pas donné à tout le monde, on va dire.
Non, c'est pas donné à tout le monde. Je pense qu'au niveau, même au niveau des salariés de l'ADI, on est embauché aussi dans ce sens, en fait. Une personne qui n'a pas forcément d'empathie, de la patience, qui n'est pas forcément ouvert d'esprit ou qui n'a pas l'habitude de travailler avec les communautés, etc., bon, bah, c'est pas forcément le profil qui sera recherché au niveau de l'ADI. On a besoin, en fait, justement, d'avoir cette ouverture d'esprit pour tous. Et je pense qu'on est tous dans cette même dynamique au niveau de l'ADI, quoi qu'il arrive.
Memouna, de l'Association pour le droit à l'initiative économique, ADI, des Hauts-de-France.
Quels sont les principaux freins que vous constatez quand les personnes viennent vous voir ? Qu'est-ce qui les freine le plus ?
Qu'est-ce qui les freine le plus ?
Oui, ou de quoi ont-ils peur ?
Je pense que il y en a beaucoup qui ont réellement peur de se lancer. Ils n'ont pas réellement peur de se lancer, ils ont plutôt peur d'échouer. Et ensuite, il y a... Je pense que c'est des peurs qui sont transmises. Je pense pas que c'est réellement leur peur directement, mais souvent c'est lié à l'entourage, quand il y a des enfants aussi, etc. Et donc du coup c'est surtout cette angoisse au niveau financier de se dire comment je vais pouvoir faire si ça fonctionne pas, etc. Je vais me retrouver peut-être avec un crédit ou quoi que ce soit. Mais en fait, encore une fois, au niveau de l'ADI, tout est calculé. C'est-à-dire que nous, une personne qui nous demande de 10 000 euros pour un projet... Si le projet n'a pas forcément besoin, en fait, de 10 000 euros pour commencer, qu'on peut commencer avec bien moins que 10 000 euros, et qu'en plus de ça, la capacité de remboursement ne le permet pas, on ne va pas aller. On est là aussi pour pouvoir raisonner un petit peu les personnes quand ils voient un peu trop grand, et puis de se dire bah, on peut commencer petit. Et puis ensuite, et ben, on va essayer de voir un peu plus grand une fois que ça ira un peu, quand ce sera petit déjà. Mais on ne les met pas en difficulté. On est là pour les aider justement, mais sans les mettre en difficulté pour autant. Et donc c'est aussi de notre rôle de leur dire quand c'est OK et quand ça ne l'est pas, et quand il faut revoir le financement à la baisse, ou alors tout simplement te dire, bon, là, un local, ça va être très coûteux, mais on peut peut-être commencer l'activité à la maison. Et donc à ce moment-là, il y a toujours des portes, en fait, qui s'ouvrent quand on y réfléchit bien. Donc je dirais pas... Je pense que tout le monde arrive quand même avec une certaine appréhension, et puis aussi le fait de pas forcément se sentir légitime. Je pense que quand on a souvent des portes qui sont fermées et que on vient aussi avec la peur de se dire ah, mais on va me refuser une fois de plus. Mais au niveau de l'ADI, il n'y a jamais de non définitif. Ce qu'on demandera, c'est soit que la personne elle essaye un petit peu plus de se mettre dans le verre et puis ensuite de revenir parce que là, elle est trop en difficulté et ce n'est pas possible. Ou alors de commencer petit pour ensuite pouvoir voir plus grand. Mais il n'y a pas de non définitif, en fait, au niveau de l'ADI. Voilà.
Dans les projets que vous avez accompagnés, quels sont ceux qui vous sont restés en mémoire ?
Alors, en fait, il y a tellement de projets différents. Moi, c'est pas forcément, en fait, le projet, je dirais, plus que c'est par rapport à la personne, en fait, qu'on a en face de nous, parce que le métier, il est très humain, en fait, au final. Et parfois, en fait, ça peut être un métier qui peut paraître banal, mais quand on connaît toute l'histoire, en fait, qu'il y a derrière la personne, ben, moi, c'est plutôt ça, en fait, qui va me marquer. Là, par exemple... J'ai une dame, en fait, que je suis, qui vient du coup des Dom-Tom. Elle a 9 enfants et elle est arrivée ici pour pouvoir leur offrir une vie meilleure. Et donc, elle a commencé par ouvrir un restaurant avec son mari. Et c'était compliqué pour ses filles de pouvoir trouver un emploi, etc. Et donc, elle a décidé, en fait, d'ouvrir une boutique où... là-dessus, où elle va faire tout ce qui est vêtements traditionnels, en fait, etc. Et se partager le local avec ses filles pour qu'il y en a une qui fasse les ongles, il y en a une qui fait tout ce qui est coiffure, etc. Et donc, du coup, c'est devenu vraiment un projet familial. Mais quand on connaît réellement l'histoire qu'il y a derrière et les difficultés que cette dame, elle a eues pour pouvoir en arriver là, les sacrifices qu'elle a fait, et avec toute la charge en plus de ça qu'elle a derrière, de se dire « j'ai fait tout ça pour pouvoir, en fait... » pour ma famille, en fait, tout simplement. Moi, c'est plutôt ça qui va me marquer, en fait. Je pense qu'on peut faire le métier le plus extraordinaire du monde. S'il n'y a pas une histoire derrière, ça va pas valoir autant qu'une petite activité sur laquelle il y a une énorme histoire qui va derrière.
Oui, c'est le parcours.
Exactement.
C'est la progression de la personne.
C'est ça.
À travers son projet, ce qu'elle a pu découvrir.
Oui, et puis aussi leur détermination et... la façon qu'ils ont en fait vraiment d'être capables en fait de se relever et d'aller toujours plus loin. C'est surtout ça.
Et ce qui est important aussi, c'est de retrouver la confiance en soi.
C'est ça. Ça, c'est vraiment la base de tout. D'où les ateliers confiance en soi, du coup.
Et qui anime cet atelier ?
Alors là, c'est Christine qui est notre bénévole, qui est également du coup à son compte en tant que coach. Et en fait, il y a pas mal de dames qui font de la cuisine, ce genre de choses en fait au centre social de l'Alma. Et on s'est dit que ça serait pas mal en fait de faire un événement avec elles pour leur donner confiance et pourquoi pas créer leur activité en fait à elles-mêmes. Là, pour le moment, elles sont dans une coopérative, mais si ça se trouve, il y en a certaines d'entre elles qui voudraient développer leur activité, mais qui n'ont pas assez confiance, qui se mettent des barrières là-dessus, et l'entourage qui fait que « mais c'est risqué », etc. Et finalement, en fait, à travers les peurs de tout le monde, ben, on finit par avoir peur nous-mêmes. Alors que quand on reprend confiance, ben, on se dit « mais finalement, on peut peut-être essayer ».
Est-ce qu'il y a des personnes qui ont été accompagnées dans votre association et qui reviennent en tant que bénévoles ?
Alors, je pense qu'il y en a, oui. Maintenant, j'en ai pas en tête, mais il me semble qu'il y en a, oui. En sachant que nous, l'ADI, on est situé un petit peu partout en France. Et donc, oui, il y en a, mais personnellement, moi, j'en connais pas.
Peut-être nous dire si jamais on a besoin d'informations ou est-ce qu'on peut trouver...
Oui, si jamais vous avez besoin d'informations, vous pouvez vous connecter sur notre site adie.org, sur lequel vous pouvez prendre directement rendez-vous en ligne. Vous pouvez également contacter du coup notre plateforme nationale au 09 69 328 110. Vous serez mis en fait en contact avec l'agence la plus proche de chez vous, en sachant que nous sommes situés un peu partout dans les Hauts-de-France.
Est-ce que vous pouvez nous dire si vous intervenez qu'à Roubaix ou est-ce que vous intervenez dans la région des Hauts-de-France ?
Alors, on intervient dans la région des Hauts-de-France. Donc, on a plusieurs agences, dont du coup Roubaix, Lille, Valenciennes. On intervient aussi sur Dunkerque, Calais, Lens, Arras. En tout cas, près de chez vous, dans les Hauts-de-France, vous avez toujours une agence qui est disponible au plus proche.
Nous étions avec Memouna, de l'Association pour le droit à l'initiative économique, ADI, des Hauts-de-France. Reportage réalisé par Christian Lazaoui pour Radio Pastel.
Une émission proposée dans le cadre des productions coopératives des radios associatives du nord de la France. Une coopération qui a reçu le soutien de la région Hauts-de-France.
C'est les Chasse-Patates sur Radio Campus.
On vous donne rendez-vous le 4 juillet au Grand Sud pour le Grand Bal des cyclistes, la veille du départ du Tour de France.
Parti avec le sourire.
Venez découvrir le tout nouveau spectacle des Chasse-Patates qui vous emmèneront tutoyer les sommets avec des invités et des surprises plein la musette.
J'ai le moral dans les soquettes.
Plus d'infos sur les réseaux sociaux et sur le site du Taillet, letaillierproduction.com et sur ticketmaster.fr.
Bye. Mais oui, je t'aime, mais oui, je t'adore. Mais oui, je suis bien qu'avec toi, mais oui, t'es mon trésor. Mais bon, là, là, je peux pas. Tu voudrais que j'abandonne Mo? Tu voudrais que je laisse tomber Pierre? Tu voudrais que je parte comme un voleur, sans même finir ma bière? Alors ça, ça, je peux pas. À moi, tu m'étouffes, tu me persécutes, de toute façon tu es une grosse vieille. Alors là, là tu te barres. Toute ma vie, c'est la tournée des bars. La tournée des bars, c'est là toute mon histoire. Et les gars, maintenant qu'on est entre hommes, maintenant qu'on est en route, avant qu'on s'endorme, on va essayer de s'en trouver une bonne, ou une moins bonne. Enfin, une qui veut bien. Tiens, Momo, regarde celle-là, là-bas. Là. Mais oui, je vous adore. Mais oui, vous êtes mes potes et vous le resterez toujours et encore. Mais bon, là, là, je peux plus. Là, là, je peux plus.
Pour beaucoup d'entre nous, les Jeux Olympiques ont été l'occasion de découvrir le BMX. Joris Daudet, Sylvain André et Romain Mathieu ont écrit l'histoire du BMX français en réalisant un triplé historique. Dans les Hauts-de-France, il y a pas moins de 21 clubs et plus de 500 pilotes. Je suis allé à la découverte de cette discipline au BMX Club de Crépy-en-Valois lors de la quatrième manche de la Coupe régionale Hauts-de-France de printemps. Rencontre avec Georges Béranguier, ancien président et fondateur du club.
J'ai monté l'association vers 1997-98 et donc après voilà, après avec la, j'ai été voir la ville pour essayer d'avoir un terrain pour faire connaître le monde du BMX, pour faire fonctionner le club et puis faire voir aux Crépinois, puis à beaucoup de monde, puis comme il y avait beaucoup de championnats, puis d'avoir une piste et puis pour participer après sur les courses comme aujourd'hui, actuellement.
C'est une piste pour faire du race, du racing
C'est du BMX race.
Il y a plusieurs sortes de BMX.
Voilà, dans la catégorie BMX, il y a BMX race, là c'est sur circuit. Donc après il y a BMX dirt. Dirt c'est sur des bosses où les pilotes font des figures. Et donc après il y a du flat, et le flat c'est au sol, et donc après c'est des pilotes qui font des acrobaties voilà, sur leur vélo, des vélos plus lourds avec leurs cale-pieds. Et là sur actuellement ici sur Crépy, c'est la race, c'est avec un vélo le plus léger possible, parce qu'après quand on est sur le circuit, c'est un circuit ici à Crépy qui fait à peu près 340 mètres. Donc après, puis donc il faut essayer d'avoir un vélo le plus léger possible pour accéder, comme c'est très 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 physique. Et donc voilà.
Alors j'ai vu qu'il y avait deux catégories de courses. Il y a les 20 pouces et le cruiser.
Oui.
C'est quoi la différence?
Alors le 20 pouces, voilà, c'est un BMX normal comme vous voyez avec des petites roues. Et donc le cruiser, c'est avec des roues de 24 pouces. ça ressemble, c'est entre le VTT et puis le VTT c'est du 26 pouces et puis le cruiser c'est du 24 pouces. Et donc
ça fait une grosse différence pour la course.
Bah la différence, oui, parce que le vélo est plus grand, avec les, bien sûr avec les roues de 24 pouces, donc c'est plus grand. Et puis on est quand même mieux aussi sur un vélo de cette taille-là, sur un 24 pouces cruiser.
Dans le club, là, il y a combien d'adhérents à peu près?
Là actuellement, depuis l'année dernière avec les JO de Paris, on a fait un triplé français, médaille d'or. Bronze et puis argent, et donc ça dans tous les clubs, ça, et puis les gens ont découvert en même temps aussi ce sport là avec le triplé olympique, et là on est monté en flèche dans beaucoup de clubs, et puis là on est à plus de 80 pilotes.
Et alors ça commence à partir de quel âge?
Ah donc là ça commence à partir de, on va dire, 4 ans et demi, 5 ans. C'est suivant, après il y a des gamins de 4 ans et demi qui peuvent avoir tenir sur un vélo. Parce qu'après il y a plusieurs dimensions de vélo. C'est-à-dire après il y a micro, après il y a mini, après il y a après il y a Pro XL, enfin après il y a suivant la taille des pilotes, il y a une taille appropriée pour le pilote de taille de vélo.
Et ça va jusqu'à quel âge?
Jusqu'à vétéran.
Il n'y a pas d'âge pour finir?
Voilà, il n'y a pas d'âge, quoi. Et maintenant, après, on fait actuellement les draisiennes. C'est des petits vélos sans pédalier. C'est-à-dire que les gamins ont les pieds, et c'est-à-dire qu'ils poussent avec leurs pieds, et on commence à les mettre sur une ligne pour qu'ils commencent à s'adapter, à pousser avec les pieds. Et puis donc après, si ça leur plaît, après c'est là qu'ils passent sur une catégorie après actuellement, après jusqu'à... Et c'est là qu'ils découvrent en même temps le BMX, ça leur plaît, puis donc après...
Vous disiez 4 ans et demi, on peut faire de la compétition à partir de 5 ans, 4-5 ans?
Ah oui. Comme là actuellement, il y a les catégories. La première catégorie commence. Après, bon, c'est je sais pas quoi. Et puis donc, avant c'était poussin. Ils peuvent très bien commencer à faire les compétitions. Et donc actuellement, moi j'étais président et puis entraîneur aussi. Et donc là, je continue toujours, j'ai un peu mis le côté, laissé ma place de président. Maintenant c'est monsieur Vincent Lorenz qui est président. Moi je suis resté vice-président et je suis entraîneur. Et moi j'entraîne maintenant le samedi matin, j'entraîne les filles.
On peut faire du BMX toute l'année? Ou c'est simplement printemps-été ou...
On essaye de faire le maximum pour qu'ils puissent rouler toute l'année. Après, c'est souvent aussi fonction du temps. Et parce que après, bon, quand il pleut, c'est pas évident. Donc nous, l'hiver, ce qu'on fait, maintenant, on met des bâches. On bâche toute la piste, du départ jusqu'à l'arrivée, pour essayer de faire rouler au maximum et d'ouvrir au maximum le club pour que les pilotes puissent venir s'entraîner.
Vous bâchez, ça veut dire quoi? Parce que je comprends pas. Ben vous ne roulez pas quand c'est bâché.
Si, on met des bâches justement quand il pleut pour éviter après.
Vous roulez sur les bâches?
Oui, on roule sur les bâches. On met des bâches pour empêcher, parce que si on ne met pas de bâches, ça permet. S'il pleut, ça fait des flaques d'eau et tout. Et après, on bâche. Et c'est-à-dire qu'on peut continuer à rouler, à ouvrir, et on peut rouler quand même s'il y a les bâches dessus. Et après, arriver là, après, quand on arrive à la période du printemps, on débâche tout, on enlève les bâches. Et puis donc après, bon, chaque année, après, on schiste, on fait appel à la ville, on nous fournit un 30 tonnes de schiste, c'est le tas que vous avez derrière là. Et donc après, c'est comme c'est de la tuile concassée, quoi. Et donc après, c'est comme la terre battue, comme au tennis. Et donc après, on remet ça sur, au printemps, on met ça sur la piste, et puis donc après, on compacte. Et puis après, c'est de l'entretien, parce qu'après le printemps, l'herbe pousse, c'est beaucoup d'entretien.
Pour le BMX, il existe des pistes couvertes?
Pistes couvertes, oui. Parce qu'après, il y a des villes, ils font des compétitions, on appelle ça des indoors. Et donc, comme à Caen, Saint-Etienne, eux, ils font des c'est comme des Coupes de France. Et donc, eux, ils font ça en indoor, en salle, le week-end.
Il faut quand même au BMX un certain équipement.
Oui, ah oui, obligatoire. Donc, casque intégral, gants, maillot manche longue, après un pantalon jean, et puis donc après nous ce qu'on fait, là on a fait des maillots du club, et donc après on fait fabriquer des maillots avec le prénom derrière.
Et il n'y a pas de chaussures spécifiques?
Non, pas de chaussures spécifiques, après c'est bon, c'est des tennis. Parce qu'après, bon, après, il y a une catégorie de pilotes. Après, quand il y a des pilotes qui sont confirmés, bon, eux, ils roulent en pédale automatique, comme les cyclistes. Mais là, il faut être vraiment confirmé. On ne peut pas mettre un gamin avec tout de suite en pédale automatique. C'est-à-dire que là, quand le pilote passera avec des pédales automatiques, il aura déjà un certain niveau.
La dernière demi-finale vient de s'élancer. Ce sont les 17-24 ans et le bon départ. Il est du côté de Romain Vitry, le pilote du BMX Coupe.
Alors là, on va parler un peu de l'organisation des championnats, parce que ici, c'est la quatrième manche du championnat de printemps.
Ouais, ouais.
Ça correspond à quoi, en fait?
C'est une catégorie au début d'année. C'est là, comme on fait, là, c'est la dernière de la Coupe de printemps. Et après, on redémarre après, ensuite, vers septembre, et on appelle ça championnat d'automne.
En fait, là, c'est la quatrième manche, c'est de la région des Hauts-de-France.
Ouais.
C'est divisé en régions.
Ouais, ouais. Non, en région, ouais.
C'est les Hauts-de-France ou c'est les quarts est?
C'est non, c'est le Hauts-de-France. Parce qu'avant, on appelait ça championnat de Picardie. Et ben après, maintenant, c'est devenu le Hauts-de-France. Et puis maintenant, c'est pour ça qu'on partage entre l'Oise et puis le Nord. Et puis on appelle ça le championnat de Hauts-de-France.
Parce que moi, j'ai entendu qu'il y avait des compétitions, le quart Nord-Est.
Oui, parce qu'après, quart Nord-Ouest et tout, après, ça, c'est, on passe après sur. On sort là, du championnat Hauts-de-France. C'est-à-dire qu'après, c'est une catégorie pour Nord-Ouest, Sud-Est et tout. C'est pour se qualifier, pour aller après. Sur les grands championnats, pour réunir après le championnat de France, le championnat d'Europe, et puis donc après, ces courses-là permettent aussi pour se qualifier pour le championnat du monde. Et là, cette année, le championnat du monde se passe à Copenhague, je crois. Et donc, on aura des pilotes qui seront qualifiés pour le championnat du monde, et après, on va essayer de trouver des solutions pour essayer de les aider pour qu'ils puissent participer. Parce que l'année dernière, on a eu un pilote qui est parti aux USA pour le championnat du monde. C'est Maxime Demange. Et donc, puis là, actuellement, c'est un pilote qui roule très, très fort. Il est dans une catégorie, il a 12-13 ans. Et il roule, c'est vraiment incroyable, quoi. C'est... Il est qualifié comme Vincent Lorenz, il est qualifié aussi. Et puis on espère qu'ils participeront au championnat du monde pour représenter les couleurs de Crépy.
On n'a pas parlé encore la façon dont se déroulait la compétition. J'ai bien compris, il y a trois manches d'abord, qualification.
Voilà.
Et après, on attaque.
Dans chaque catégorie, il y a suivant le nombre de pilotes. Parce qu'après, ça se passe comme ça. Il y a trois manches qualificatives. C'est-à-dire qu'ils partent à 8 au départ. Il faut terminer dans les 4 premiers. Donc après, ils font leurs trois manches comme ça. Et donc à partir de là, il faut rentrer. Après, on calcule 4-4. Il faut qu'ils arrivent dans les 12 points. Donc après, arriver là, s'il peut avoir très bien des. Suivant le nombre de pilotes, il peut très bien avoir des quarts, des huitièmes. Et donc après, admettons s'il y a deux demi-finales de chaque catégorie, c'est pareil, ils vont partir à 8. C'est-à-dire on va prendre les 4 premiers. L'autre demi-finale va se courir, ils vont partir à 8, on va reprendre les 4 premiers. Et donc après on réunit les 4 premiers de la première demi-finale, on reprend les 4 premiers de la deuxième demi-finale, on les réunit pour faire une finale à 8 sur le départ. Parce que la butte de départ, ça correspond à 8 pilotes maximum.
Ouais, après les 3 manches qualificatives, c'est élimination directe.
Oui, après ceux qui passent pas les points, et comme je vous dis, il faut terminer dans les 4 premiers absolument.
Chaque pilote fait au moins 3 manches.
Ah oui, chaque pilote fait sur 3 manches. Et sur ces 3 manches-là, il faut finir au moins dans les 4 premiers pour se qualifier. Et arrivé là, s'ils sortent des points, eux, ils ont fini. C'est-à-dire qu'ils sortent des manches, la course est terminée.
Donc là, j'ai compris que le championnat de France cette année, ça serait à Compiègne, c'est ça?
Oui, donc là, il va y avoir un championnat de France au mois d'octobre. Et donc à Venette, et là, c'est une grosse compétition. Là, ça va réunir plus de 1000 pilotes. Ça va va se passer sur un week-end. Et donc là, et puis en plus de ça, je crois qu'il y a, ils m'ont dit qu'il y avait un pilote qui avait fait les Jeux Olympiques l'année dernière à Paris, qui sera présent là-bas. Bon, ça va passer aussi sur les chaînes télé. Mais là, c'est vraiment le grandiose. Là, c'est là pour voir les élites, enfin, les pilotes qui roulent fort. Là, c'est vraiment impressionnant.
Dans le sud de l'Oise, pour RVM, c'était Hervé de Chornia, à la découverte du BMX Club Crépinois lors de la 4e Coupe régionale de printemps des Hauts-de-France.
Cette émission est proposée dans le cadre des productions coopératives des radios associatives du nord de la France. Une coopération qui a reçu le soutien de la région Hauts-de-France.
Votre compteur FM affiche 106,6. Alors vous êtes sur Radio Campus, la plus vieille radio libre de France, radio libre et associative depuis l'année érotique de 1969. Vous pouvez consulter un médecin ou un psy, ou mieux encore, le site de campuslille.com. Vous allez y trouver les programmes, les archives, les dates de concerts, plein de choses intéressantes. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne journée. Merci de votre écoute et à bientôt.
Sous un brouillard d'acier, dans les banlieues d'Izmir, de Suse ou Santa Fe, 6 milliards de pantins, au bout de la lumière, qui se met à rêver d'un nouvel univers. Et toi tu restes ailleurs, dans un buzz immortel, à fabriquer des leurs en fleurs artificielles, pour les mendiants qui prient les dieux et les chimères, les trafiquants d'espoir aux sorties des vestiaires. Je t'aime et je t'attends à l'ombre de mes rêves. Je t'aime et je t'attends, et le soleil se lève. Et le soleil dans un rideau de feu, dans les banlieues d'Auckland, de Cusco ou Montreux, 6 milliards de fantômes qui cherchent la sortie, avec des sonotones et des cannes assorties. Mais toi tu viens d'ailleurs, d'une étrange spirale, d'un maelstrom unique dans la brèche spatiale, avec autour du cou des cordes de piano et au poignet des clous pour taper le mambo. Je t'aime et je t'attends à l'ombre de mes rêves. Je t'aime et je t'attends, et le soleil se lève. Et le soleil dans son plasma férique, dans les banlieues d'Hanoï, de Sfax ou de Munich, 6 milliards de lépreux qui cherchent leur pitance dans les rues de l'amour en suivant la cadence. Mais toi tu cherches ailleurs les spasmes élémentaires qui traduisent nos pensées comme on traduit Homère. Et tu m'apprends les vers d'Anna Akhmatova pendant que je te joue Kedja l'harmonica. Je t'aime et je t'attends à l'ombre de mes rêves. Je t'aime et je t'attends, et le soleil se lève. Et le soleil ivre de ses vieux ors, dans les banlieues d'un Cordos, d'Oulan-Bator, 6 milliards de paumés, levant la tête au ciel pour y chercher l'erreur dans un vol d'hirondelles. Mais toi tu planes ailleurs sur des nuages flous, dans de faux arcs-en-ciel vibrants de sable mou. Tu chantes des arias d'espoir universel pour faire que le soleil se lève sur nos emails. Je t'aime et je t'attends à l'ombre de mes rêves. Je t'aime et je t'attends, et le soleil se lève. Et le soleil là-bas sur l'horizon, venant d'Héliopolis, en jouant Hyperion, 6 milliards de groupies qui l'attendent hystériques dans le stade au jour J, en brouillant la musique. Mais toi tu squattes ailleurs dans un désert de pluie, en attendant les heures plus fraîches de la nuit. Et tu me fais danser là-haut sur ta colline, dans ton souffle éthéré de douceur féminine. Je t'aime et je te veux à l'ombre de mes rêves. Et je te veux, et le soleil se lève.
As the sun pulls away from the shore and our boat sinks slowly in the west, we approach the island of Lulu. Spelled backwards.
Ul-ul.
Ah, in the distance we hear Spike Jones and his wacky wackakians.
Ha 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 ha